Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir David Abrias, qui est directeur général Groupe Cardam et président du volet architecture du Groupe Cardam. Bonjour David.
Bienvenue.
Alors, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui, nous savons très bien que vous travaillez énormément sur la restructuration, la rénovation d'entreprises, de bâtiments, des projets neufs, des projets en réhabilitation. On a évoqué déjà sur d'autres thématiques le cradle to cradle, dont vous êtes, je sais, très attaché au fait de ne pas gâcher. Gâcher l'énergie, les bâtiments. Et donc, on va en parler aujourd'hui, puisque la thématique de notre joli rendez-vous, c'est effectivement la démarche RSE dans les entreprises. On sait aujourd'hui que l'adoption de la loi PAC et la modification du Code civil en 2019 a obligé quelque part les entreprises françaises à prendre en considération les enjeux environnementaux et sociétaux dans les entreprises. Alors, même si potentiellement, elles ont plein de bonnes envies. On sait très bien qu'entre les labels, les certifications, les machins, les trucs, les entreprises ont du mal. Alors comment les architectes, les développeurs, les aménageurs et puis les groupes comme le groupe Cardam peuvent justement accompagner les directions RSE à cette révolution qui est le fait de globaliser, d'être transverse et de prendre en compte le social et l'environnemental?
Alors, tu as raison d'utiliser le mot de révolution, parce que même si on a le sentiment que le contenu des démarches RSE est dans la continuité de choses qui se faisaient jusque-là, il y a quand même quelque chose de radicalement nouveau dans ce concept-là, c'est que il faut de pouvoir démontrer la sincérité et la réalité de ces actions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de sociétés vertueuses qui avaient des démarches sociétales et environnementales, mais qui avaient plus ou moins à formaliser ou à justifier les résultats. Aujourd'hui, il faut être capable de tracer tout ça.
Audits externes. Aujourd'hui, c'est interne. Quelle est la différence?
Alors, il n'y avait pas d'audit. Il n'y avait pas d'audit particulier sur ce volet-là. Il y avait de la com, il y avait de l'engagement, mais il n'y avait pas de nécessité à venir prouver que tu faisais quoi que ce soit. Maintenant, il faut choisir ses thèmes et il faut démontrer qu'on est aligné par rapport à ça. Alors, avec des niveaux de gradation, parce que tu as, dans ce que permet la loi PACTE, tu as tout en haut l'entreprise à mission. Qui elle se met vraiment une contrainte de respecter sa raison d'être, la plus vertueuse. Aujourd'hui en France, il doit y avoir à peu près 200 entreprises à mission. Et puis il y a de l'autre côté la formalisation d'une politique RSE dans laquelle tu peux choisir ton niveau d'ambition. Donc chaque entreprise va se fixer son niveau d'ambition qui peut être bas, mais qui peut aussi être élevé et par rapport à différents critères. Et évidemment, le volet immobilier va avoir à être mis en cohérence avec ses choix stratégiques.
Alors, le volet immobilier, on sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'entreprises qui ont quand même des actifs qui sont des passoires thermiques, qui posent d'énormes problèmes, y compris sur le bien-être des salariés. Alors, comment fait-on pour intégrer au sein d'une entreprise une direction RSE qui, quelque part, est un peu pieds et poings liés à l'entreprise, qui est censée apporter la bonne parole, qui est censée avoir de l'argent à dépenser pour justement faire cette révolution? C'est pas un peu, je sais pas, très 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 difficile, non? On va dire un petit peu la quadrature du cercle, non?
C'est difficile, mais il y a des façons de rentrer dedans, puis il y a des déclencheurs. Tu parlais des passoires thermiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont, par exemple, soumises au décret tertiaire, qui revêt un caractère contraignant. Il faut que les entreprises viennent améliorer leur empreinte énergétique. Et c'est souvent par ce biais-là qu'on va rentrer dans la réflexion. Parce que quand tu commences à tirer la pelote, quand tu veux optimiser un bâtiment, tu vas retravailler sur les lots techniques, et puis peut-être un peu sur l'enveloppe. Et puis tant que tu vas réfléchir sur l'enveloppe, tu te demandes comment tu vas améliorer le confort des occupants. Et finalement, tu vois, c'est la carte des critères RSE qui est en train de se dessiner. Et là, nous, on a vraiment un rôle vis-à-vis de maîtres d'ouvrage, de les aider à identifier ces différents axes et à mettre ça en cohérence avec leur politique RSE. Parce que je pense que l'enjeu de tout ça, c'est vraiment la cohérence. Il peut y avoir différents types de stratégies. Nous, on va essayer de faire en sorte que ça ait un sens et que les différentes actions puissent rentrer en résonance. Tu vois, à une époque, on a eu on le vit en ce moment, hein, on a des injonctions à construire en bois de plus en plus, alors qu'il n'y a pas de bois. Enfin, la disponibilité du bois est compliquée, donc on est amené à faire venir du bois de l'autre bout de la planète.
Voilà, qui coûte une fortune.
Est-ce que ça a un sens, au final? Et ce que permet une politique RSE, tu vois, par rapport à l'obtention simple de labels de performance qu'on avait jusque-là, c'est justement d'apporter une vision globale sur tout ça et de pouvoir identifier les critères qu'on va venir traiter de différentes manières dans le cadre d'un projet architectural.
Alors, rappelle-moi juste un truc important, puisqu'on a parlé de labels et de certifications. Aujourd'hui, où sont les critères, où sont les labels, où sont les certifications? Un chef d'entreprise avec sa direction RSE qui veut aujourd'hui, ou une chef d'entreprise, bien évidemment, ne soyons pas genre, qui décide aujourd'hui de faire appel à Cardam pour dire bon ben voilà, moi j'ai bien réfléchi, je veux transformer mon bâti, je veux faire tout ce dont on a évoqué tout à l'heure, y compris transformer mon parking en nappe avec de l'evergreen, enfin des choses infiltrantes, etc. Mais comment je fais, où sont les labels, où sont les certifications, comment je fais pour être sûr que ce que vous allez me proposer va me permettre justement d'être dans la réglementation, voire justement d'être plus vertueux.
Alors c'est là qu'il y a des arbitrages à faire sur label ou pas, parce qu'après, tu vois, aujourd'hui la plupart des entreprises qui ont une politique RSE formalisée, c'est pas toujours le cas, mais de plus en plus en ont. Il y a plusieurs façons de le faire. Souvent, ça s'articule autour des ODD, de l'ONU, des objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU.
Oui, mais ça c'est combien, il y a combien, 16 critères plus des sous-critères.
Ouais,
plus
il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, ça va faire une stratégie qui est unique par entreprise. Par contre, qui va identifier des thèmes principaux sur lesquels elle a décidé de faire forcer le trait. Et nous, justement, en réponse à ça, on va être capable. Alors, c'est pas nous qui allons faire la politique RSE des entreprises, bien sûr. Par contre, on va être capable de leur indiquer
de lister,
ce que ça vient indiquer sur le bâtiment, et en fonction de là où ça nous mène, de mesurer l'intérêt ou pas tel ou tel label. Beaucoup de labels jusque-là, enfin ceux qui étaient connus jusque-là. Se focaliser beaucoup sur le volet énergétique. Après, tu as des labels sur le bien-être, tu as des labels sur la connectivité. Voilà, donc en fonction des entreprises, des stratégies de chaque entreprise, nous, on va être capable d'identifier le besoin de mettre un label en face ou pas. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il n'y a aujourd'hui pas de label. Et s'il y a un enjeu pour une entreprise, par exemple, c'est de travailler sur sa mobilité, nous on va se questionner sur comment est-ce que le parc immobilier ou le bâtiment va venir répondre à ces enjeux de mobilité, mais on n'aura pas de label en face, on aura juste une réponse la plus intelligente et adaptée possible.
Alors, effectivement, c'est bien de parler mobilité, parce qu'on sait aujourd'hui que la Covid a modifié un certain nombre de choses, dont évidemment les réflexions sur le télétravail. On avait avec les entreprises, je dirais, des réflexions avant la Covid sur on va changer notre parc immobilier, on va prendre des bureaux plus grands, on va avoir tel ou tel nouveau siège, parce que évidemment on a envie d'une certaine image. Donc c'était quand même très orienté, entre guillemets, comme, pas que, mais bon, je grossis un peu le trait, mais tout de même, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'entreprises qui se disent, au fond, j'ai peut-être gardé ou j'ai peut-être avoir un siège un peu plus petit, j'ai proposé à mes salariés d'être en partie en coworking, en partie en télétravail. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de les aider dans le fait de trouver des solutions et dans ces réflexions.
Oui, bien sûr, tu as raison, c'est vraiment, ça c'est le sujet d'actualité de toutes les entreprises qui ont des infrastructures tertiaires significatives. Et la réponse, elle est toujours composite. Elle est toujours composite. Donc il y a une première réflexion qui va consister à réfléchir sur le flex office ou pas. Donc de plus en plus d'entreprises basculent dans le flex office dans des degrés qui sont à définir. Donc là-dessus, on les accompagne, nous, sur qu'est-ce qui est la solution la plus adaptée pour eux et comment ça se traduit d'un point de vue technique. tu vois, un sujet un peu trivial mais auquel il faut penser, c'est que un bâtiment tertiaire qui va se mettre à accueillir de plus en plus de configurations de travail collaboratives, réunions ou animations d'ateliers versus des situations individuelles, ça veut dire que ça va pas du tout être le même dimensionnement en CVC. Donc tous ces sujets-là, il faut les anticiper techniquement et aussi réfléchir.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs et les directions RSE ont vraiment cette vision de savoir comment l'entreprise va évoluer dans 5 ans? Tout le monde est quand même avec des gros points d'interrogation au-dessus de la tête, hein, non?
C'est sûr, mais il faut apporter des réponses, et donc ces réponses, elles sont prudentes, parce que tout le monde doit gérer cette incertitude.
Il y a des coûts derrière.
Elle doit être le plus souple possible, et elle est aussi composite. Tu vois, il y a des entreprises à qui on a proposé de créer des réseaux de cowork, par exemple, pour mettre à disposition des espaces de travail pour leurs entreprises en contrepartie d'une réduction d'un bâtiment principal ou la création de bâtiments satellites. Il y a même en ce moment des réflexions entre entreprises qui imaginent pouvoir mutuellement se prêter de locaux. Donc on a des discussions assez intéressantes.
Intéressant,
avec
ça.
Plusieurs entreprises qui, plutôt que de se dire on va recréer des locaux quelque part, pourquoi est-ce que dans la mesure où le personnel est connu, qualifié, sécurisé, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à disposition des locaux entre entreprises? Donc toi, cette réflexion, elle est très
mais ça, c'est assez innovant, non? C'est drôle. C'est assez innovant.
C'est complètement innovant, et je crois que ça procède de la réflexion que le Covid a accélérée, de se dire il y a un moment, il va falloir mettre des choses en commun. Et évidemment, ça fait écho à tout ce qu'on entend sur la limitation des constructions, la limitation de l'artificialisation des sols, le manque de performance d'un certain nombre d'actifs immobiliers, et notamment le bureau. Donc on rentre dans ces réflexions-là, qui, tu as raison de le préciser, qui n'existaient que très peu avant, de comment est-ce qu'on peut profiter au maximum des infrastructures qui existent, et en profiter du coup pour venir adresser des sujets qui sont sous le coup de la RSE, de bien-être des salariés, de diminution de l'empreinte carbone de l'entreprise au titre de son immobilier et au titre de sa mobilité. Comment est-ce qu'on privilégie les circuits courts? Comment est-ce qu'on se met en interface avec les territoires? Voilà, toutes ces réflexions-là, les cartes sont très globalement rebattues, et c'est d'ailleurs une période qui est aussi passionnante que qu'inquiétante, parce que voilà, on est en train de réinventer beaucoup de choses. Ouais.
Alors, on sait très bien qu'on n'a pas toutes les réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce travail avec les directions RSE, elle est vraiment vertueuse? On sait très bien aujourd'hui qu'il y a des gros groupes qui ont des formidables directions RSE dans lesquelles il y a beaucoup de moyens, beaucoup de communication, avec peut-être quelque part l'envie de se racheter une bonne conduite, d'autres qui aussi, on va dire, sont peut-être plus vertueux quelque part, mais ont peut-être moins de moyens. Comment fait-on pour être sûr que l'argent va au bon endroit, qu'il est bien dépensé, et surtout qu'il est bien, on va dire, identifié? Parce que aujourd'hui, s'occuper du social, c'est quelque part essayer d'avoir la paix. Hein, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça dans l'entreprise. Et alors que s'occuper de l'environnemental, ça peut être aussi juste de l'effet de com.
Hein. C'est alors, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Non, mais j'exagère.
Ça a beaucoup été de l'effet de com. Tu sais, nous, on a beaucoup souffert dans le métier de l'architecture de projets dont l'environnement, enfin dont l'ambition environnementale était au top à l'esquisse, baisse un peu à l'APS, et puis a complètement disparu à l'APD, parce que tu te heurtes à des réalités financières, sociales, organisationnelles, de timing, etc. Donc je vois d'un très bon œil cet élan vers le RSE, parce que comme je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il va falloir amener des éléments de sincérité et de cohérence. Et donc, on va plus pouvoir faire comme avant, où on avait des grandes déclarations, et puis à la fin, il se passait pas grand-chose. Aujourd'hui, les entreprises vont être challengées là-dessus, et ça correspond d'ailleurs à des attentes venant des entreprises
elles-mêmes,
venant des collaborateurs de ces entreprises et puis venant de la société. Hein, on a les entreprises, les politiques, l'industrie qu'on mérite. Si ça devient un sujet qui est important dans notre conscient et inconscient collectif, bah, ça va devenir important pour les entreprises. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte que les politiques des RSE des grands groupes sont screenées par tous les jeunes collaborateurs qui veulent y rentrer. Et il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ne veulent plus faire des carrières dans des entreprises
qui n'ont pas
ce type de démarche.
Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas justement, parce qu'il y a cette vérification quelque part par les jeunes collaborateurs du fait que l'entreprise dans laquelle ils veulent adhérer pour une partie de leur carrière était vraiment vertueuse et vraiment portée sur le RSE, est-ce qu'il n'y a pas du coup une réflexion plus importante sur le fait de faire des modifications de sites en sites occupés, travailler sur le volume de l'entreprise ou le bâti mais en site occupé, ça veut dire que il y a une espèce de concertation qui se fait avec les collaborateurs, un peu comme aujourd'hui les projets urbains ne peuvent pas se faire sans la concertation avec la population. Est-ce que Cardam a déjà eu ce genre de challenge, c'est-à-dire avant le projet, d'avoir à concerter d'une manière forte en direct?
Alors ça existait avant le Covid, parce que un projet immobilier, surtout dans l'environnement tertiaire, c'est avant tout une opportunité managériale pour les entreprises. Donc la concertation et la co-construction, partout où c'est possible, bien sûr, nous on le préconise, et c'est des concertations qu'on mène aux côtés des maîtres d'ouvrage pour leur permettre d'avoir le meilleur projet possible. Il y a deux raisons à ça, c'est que c'est quand même les utilisateurs qui connaissent le mieux leurs besoins. Donc, si on veut bien le comprendre, c'est bien de leur demander et de laisser s'exprimer. Et cette co-construction, ça permet aussi d'impliquer chacun des futurs utilisateurs dans le projet et donc d'avoir des meilleurs résultats. Mais ça existe depuis longtemps, et c'est des choses qu'on mène depuis longtemps, de la même manière qu'on mène des projets de concertation urbaine quand on vient intervenir dans des quartiers. Ce qui
Mais change, en quoi ça pense, a changé RSE, justement c'est aujourd'hui que,
c'est qu'on est obligé d'aller sans doute plus loin et de façon plus détaillée dans l'impact que va avoir le projet. Et tu vois, aujourd'hui, on consulte, on vient intégrer des éléments de réflexion dans cette concertation qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusque-là. On réfléchissait beaucoup sur la fonction, éventuellement la com. Aujourd'hui, l'impact de chaque bâtiment va être exploré, et on discute aujourd'hui dans le cadre de projets de concertation du niveau de performance carbone, par exemple, qu'on va mettre dans le projet. On discute avec les utilisateurs de savoir si eux sont aussi capables de jouer le jeu sur les mobilités. On discute beaucoup des services qu'on va pouvoir mutualiser, de comment est-ce qu'on veut implanter le bâtiment dans un circuit court, est-ce qu'on a recours à des fournisseurs locaux, qu'est-ce qu'on se donne comme contrainte autour de ça. Donc tu vois, ça a permis de beaucoup élargir le cercle de la discussion et du coup d'avoir une réflexion plus globale et plus cohérente. Tu vois, dès que tu commences à réfléchir à l'empreinte carbone avec les nouveaux outils d'analyse du cycle de vie, ça veut dire que tu vas prendre en compte aussi le carbone qui est fait en amont de ta filière, par exemple, parce qu'on avait une petite...
Alors ça, c'est aller très très loin, justement, dans la recherche de l'origine même de ce qu'on dépense comme carbone. Hein.
Ben oui, mais c'est le prix de la cohérence. C'est-à-dire que si on veut construire en bois, parce que le bois, c'est du piège à carbone, mais qu'on le fait...
Avec du bois exotique,
clair de l'autre côté des océans, la réalité de l'acte environnemental qu'on s'apprête à réaliser est quand même pas terrible. Donc, je crois que c'est nécessaire d'avoir cette vision globale, même si c'est complexe, hein, parce que une même solution technique ou constructive va avoir des avantages sous l'angle du réchauffement climatique, par exemple, mais avoir une mauvaise empreinte en termes de gestion de l'eau ou en termes de microparticules. Donc voilà, il y a toujours des arbitrages.
Mais alors ça veut dire qu'on a quand même complexifié Voilà, ce qui nous tombe dessus, hein, ce qui nous arrive, alors qu'on connaît depuis longtemps, hein, le réchauffement climatique est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais donc peut-être que nous avons la conscience d'une manière un petit peu plus, avec une acuité différente aujourd'hui. On a quand même l'impression que du coup, il y a beaucoup de possibles. Et comment on peut aider, comment les architectes peuvent aider les chefs d'entreprise et les entreprises à cerner ces possibles, justement pour donner une réponse, sachant que c'est une réponse qui obligatoirement va être évolutive, mutable, puisque on sait à un moment donné T ce qu'il se passe, qu'on sait très bien entre le projet et l'exécution, il va se passer, on va dire, 2-3 ans, et que si ça se trouve au bout de cette période de 3 ans, on va livrer un bâtiment, vous allez livrer un bâtiment qu'il faudra de nouveau faire muter en partie dans les 5 ans qui suivent, parce que, etc. Comment fait-on pour, justement, de tous ces possibles, faire un projet cohérent ?
Ben, tu vois, dans l'ensemble de ces possibilités, on est dans des considérations qui sont aujourd'hui assez vastes, et ça peut pas être des cases à cocher. Ça peut pas être aussi simple que ça. On peut pas dire, comme ça a été le cas d'ailleurs dans un certain nombre de labels jusque-là. Donc ça veut dire qu'il y a nécessairement une discussion et des choix qui sont des choix stratégiques à mener par la direction par nos maîtres d'ouvrage sous notre éclairage. Donc, tu vois, ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que ça nous permet, nous, de jouer un rôle plus important en termes de conseil. Et après, c'est pas si compliqué, parce que les politiques RSE des entreprises fixent justement un certain nombre d'axes qui sont pour elles les axes prioritaires, et nous, par rapport à chacun de ces axes, on a des solutions, un éventail de solutions à proposer avec le conseil qui permet de prendre ces décisions. Et finalement ça se fait assez bien et assez vite, avec quelque part un prérequis effectivement, mais qui est au-delà de la RSE, qui est la sincérité, et qui est l'évolutivité, parce qu'on vit aujourd'hui dans un contexte qui est extrêmement incertain, et on sait que les solutions d'aujourd'hui ne sont pas forcément les solutions de demain. Donc l'évolutivité et la possible réutilisation de toute ou partie de ce qu'on est en train de construire, ça devient le socle de notre réflexion. On parlait tout à l'heure de tiers-lieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mairies, de villes rurales qui veulent s'équiper de tiers-lieux parce qu'elles ont le sentiment que ça vient répondre à un besoin. Nous, le conseil qu'on leur donne toujours, c'est mettez-vous en configuration de faire évoluer très facilement ces lieux-là. Parce que le besoin, il est comme ça aujourd'hui, on observe que ça change très vite. Donc il faut que ça soit le réceptacle de différents types d'usages. Et donc il faut de base réfléchir dans ce sens-là et être le moins spécialisé possible. D'ailleurs, on pousse de plus en plus la réflexion quand on construit un bâtiment, de se dire il y a des cycles différents dans les composants de ce bâtiment. La structure, il faut qu'elle soit là pour durer. Donc quand on réfléchit à la structure d'un bâtiment, il faut que, si tu fais abstraction de tout ce que tu vas mettre autour, il faut que cette structure soit capable de venir accueillir d'autres usages et qu'on n'ait pas
dans le futur. La transformation des bâtiments, on sait très bien aujourd'hui qu'on n'a pas le choix, on est obligé de... Mais ça a un coût aussi, hein. Le bâtiment mutable, c'est pas neutre non plus en termes de coût, parce que la structure, de fait, elle est, on va dire, étudiée de telle manière qu'elle est transformable, hein.
Oui, et je pense que il y a des évolutions sans doute juridiques et réglementaires autour de ça. Il paraîtrait pas incongru que la structure du bâtiment, tu vois, soit portée par une structure différente de celle qui va
travailler sur l'enveloppe
les 9 premières années sur l'enveloppe. Donc, tu vois, ça ce sont des réflexions qui découlent de l'analyse des cycles de vie et qui, je pense, vont avoir des répercussions assez structurantes dans notre façon de travailler. Et voilà, qu'on essaie, nous, de poser comme un socle de réflexion pour faciliter la prise de décision des maîtres d'ouvrage qui, Voilà, mais qu'on arrive finalement
à... En tout cas, ce que je retiens quand même dans ce que tu dis, ce que je retiens dans ce que tu dis et qui me paraît être extrêmement intéressant, un des points que je retiens, c'est effectivement le fait de dire on a du coup plus de conseils à donner, on est plus écouté et on a, outre l'architecture proprement dit, puisque quelque part, pendant longtemps, on s'est attaché ou les maîtres d'ouvrage se sont attachés à nous faire des commandes de bâtiments. Aujourd'hui, ils nous font une commande de bâtiment, mais qui est liée à un conseil très important, on va dire en anticipation sur justement l'évolution, le bilan carbone, etc. Donc ça veut dire c'est le bâtiment, c'est son évolution plus tard, mais c'est aussi la manière dont il est programmé ou il est esquissé dès le début, y compris évidemment avec les salariés et avec son devenir.
Oui, c'est sûr que le bâtiment a toujours été, mais devient de plus en plus un objet social vis-à-vis de ses utilisateurs, vis-à-vis de son environnement. Et les évolutions réglementaires qu'on connaît nous amènent à ça de plus en plus. Donc c'est évidemment ça vient, c'est nouveau, donc ça effraie un peu de monde. On a pu voir que pour les évolutions de réglementation environnementale, beaucoup d'acteurs essayent de freiner.
Ouais.
On voit, il y a eu la semaine dernière un communiqué de l'Association des maires de France qui voulait qu'on donne un peu de temps sur les limitations de l'artificialisation des sols. Donc voilà, toutes ces nouveautés, évidemment, viennent inquiéter les acteurs parce que ça met un peu de complexité au démarrage, mais moi j'ai vraiment le sentiment que ça va nous permettre d'avoir un travail plus riche et plus complet, et ça va nous permettre de ne pas faire certaines aberrations que les normes nous contraignaient à faire jusqu'à présent.
Oh ouais, mais j'en suis assez persuadée.
Un champ de réflexion plus vaste. Ouais.
Bon, mais je suis assez persuadée et je dirais et peut-être que on va pas pouvoir, je dirais, finir aujourd'hui notre débat parce que c'est un débat comme le cradle to cradle la dernière fois, comme un certain nombre d'évolutions. On va sûrement trouver la prochaine fois une thématique qui sera dans la continuité justement de ce travail de fond et de se dire aujourd'hui qu'on est à l'aube d'une vraie révolution dans laquelle les architectes ont une part éminemment importante à prendre, à condition qu'ils n'aient pas peur et à condition qu'ils amènent le maître d'ouvrage dans la bonne direction, n'est-ce pas ?
C'est ce qu'on s'est toujours efforcé de faire, mais je crois que là on a un terrain de dialogue qui est en train de s'élargir, et j'espère au bénéfice de l'architecture, bien sûr, des bâtiments et de l'environnement dans lequel ça s'insère. Donc c'est, j'espère, des bonnes nouvelles. Enfin, en tout cas, tu sais qu'on est toujours, nous, optimistes.
Voilà, optimistes, etc. Et évidemment. Je partage effectivement cet optimisme et je suis assez convaincue que tous les possibles sont là. Et il suffit de trouver le bon chemin. Merci en tout cas, David. Formidable énergie, Cardam.
Merci à toi. À bientôt, Myriam.
À bientôt. À bientôt, chers auditeurs. Radio Immo, évidemment.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture.